également, vous avez pris un petit moment pour parler de l'enjeu des droits reproductifs et du planning familial. Je pense que ça pourrait faire un beau pont avec la prochaine panéliste que je ne retrouve pas, qui est là. Bonjour! en fait, un beau pont avec la prochaine panéliste qui va aborder non seulement la question de la mortalité chez les mères et chez les enfants, mais également qui va aller un petit peu plus loin pour aborder la question de l'accès aux soins et l'accès à un meilleur système de santé, particulièrement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je vous donne la parole, Madame Émilie Robert.
Si je retrouve ma présentation.
Ah oui, ça serait important. Est-ce qu'elle était déjà ouverte? Ah, voilà. Est-ce que tu as besoin de...
Voilà.
Voilà.
Je crois que c'est bon. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier Anne qui a très bien mis la table. Il y a des petites choses dont je vais parler qui risquent d'être un peu redondantes, mais je pense que, étant donné les dures journées que nous avons eues aujourd'hui et l'importance du problème, ça vaut la peine peut-être de répéter quelques chiffres un peu percutants, parce que je pense que c'est vraiment un problème fondamental. Les chiffres qu'a montré Anne sont vraiment terrifiants. Je ne veux pas en rajouter une couche, mais je pense que c'est important de garder ces chiffres en tête quand on se préoccupe de la problématique de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Moi, je vais vous parler un petit peu. Je vais prendre l'angle, en fait, du renforcement des systèmes de santé, particulièrement en Afrique subsaharienne, pour comprendre un peu l'enjeu pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Mais je vais essayer d'élargir un petit peu plus la réflexion, puis de lancer éventuellement quelques questions si j'ai le temps pour la discussion de tout à l'heure. Alors, ça paraissait plus grand sur mon écran. J'espère que les personnes au fond arrivent à lire, mais je vais le lire. En fait, il y a eu une conférence en novembre 2014, où le ministre canadien du développement international et de la francophonie, Christian Paradis, a formulé l'objectif explicite du gouvernement Harper par rapport à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Donc, leur objectif est de mettre un terme, donc c'est-à-dire d'éradiquer les décès évitables des mères, des nouveau-nés, des enfants de moins de 5 ans en une génération. Inutile de vous dire que c'est un enjeu absolument incroyable, c'est un objectif vraiment d'envergure. Et pour ce faire, le Canada a lancé le programme Leadership Continue du Canada pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, qui fait suite à l'initiative Muskoka. Et comme l'a mentionné Anne tout à l'heure, il y a trois priorités d'action, dont une que j'ai rajoutée qui est transversale. La première, c'est donc le renforcement des systèmes de santé, la réduction du fardeau des maladies, l'amélioration de la nutrition, mais également la responsabilité en matière de résultats. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement canadien a alloué 3,5 milliards de dollars sur les 5 années et 370 millions de dollars sur 5 ans pour un partenariat particulier, qui est le partenariat pour le renforcement de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, qui s'intéresse principalement à la problématique du renforcement des systèmes de santé. Tel que présenté par le gouvernement canadien, le renforcement des systèmes de santé est vraiment la clé pour améliorer l'accès aux soins des mères, des nouveau-nés et des enfants. Donc voilà de nouveaux chiffres, mais qui étayent très bien les propos de Anne tout à l'heure. C'est un problème absolument incroyable. Pour garder juste quelques chiffres en tête, environ 2/3 des décès maternels par année dans le monde se produisent en Afrique subsaharienne. Et en moyenne, 1 enfant sur 11 né en Afrique subsaharienne décède avant l'âge de 5 ans, ce qui équivaut à peu près à 15 fois le taux moyen des pays développés. Donc il y a vraiment une différence des inégalités en termes de santé des mères, des nouveau-nés, des enfants entre les pays développés, les pays en développement, mais également parmi les pays en développement, les pays à faible revenu et les pays à moyen revenu. En Afrique subsaharienne, où se situent la plupart des pays à très faible revenu, ces chiffres sont d'autant plus choquants. Comme l'a mentionné Anne, la majorité de ces décès sont évitables, d'où l'intérêt de se préoccuper vraiment du renforcement des systèmes de santé et de la qualité des soins. Entre 1997 et 2002, en Afrique, Les principales causes de mortalité maternelle sont l'hémorragie, la septicémie, les troubles hypertensifs. En Afrique subsaharienne particulièrement, c'est le ASSS, les troubles hypertensifs sont la deuxième cause de mortalité maternelle. Les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans en 2000 étaient les maladies néonatales, septicémie et infection, la pneumonie et la malaria. Donc des décès vraiment évitables. Un des facteurs de ces indicateurs terrifiants, c'est la réalité d'un système, des systèmes de santé d'Afrique subsaharienne qui sont relativement, malheureusement, peu performants. D'abord, si on regarde par exemple le taux d'accouchement institutionnel, vous m'excuserez, les tableaux qui sont un peu... je pense que c'est le passage d'un ordinateur à l'autre. J'ai simplement ajouté quelques données sur le Niger, le Mali et le Canada pour un peu donner une idée de l'ampleur des inégalités. Donc le taux d'accouchement institutionnel entre 2006 et 2013 était de 29% au Niger, de 58% au Mali et de 98% au Canada. Mais le vrai problème, c'est l'accès, c'est le problème des ressources humaines. Quand on regarde le nombre de médecins pour 10 000 habitants, au Niger, on est à 0,2 médecins pour 10 000 habitants. Au Mali, 0,8, mais au Canada, on a presque 21 médecins pour 10 000 habitants. Les infirmières et les sages-femmes, pour 10 000 habitants, c'est exactement le même problème. On a 1,4 infirmières ou sages-femmes pour 10 000 habitants au Niger, 4,3 au Mali, 92,9 au Canada. Et enfin, un des problèmes, c'est également la part du budget qui est allouée au fonctionnement de ces systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Au Canada, on alloue environ 17,4% du budget national à la santé. Au Niger et au Mali, les chiffres ont augmenté depuis quelques années, mais restent encore au-delà des 15%, qui est en fait la part préconisée par les organisations internationales pour avoir un système de santé performant. Au-delà de ces problématiques-là, donc de ressources humaines et de financement des systèmes de santé, on a également des problèmes d'approvisionnement en médicaments et en consommables, des systèmes d'information sanitaire qui sont défaillants, c'est-à-dire qu'on a du mal à collecter les données. Quand les données sont collectées, elles sont peu utilisées par les cadres et les décideurs de santé. On a également un personnel de santé qui est quand même... faiblement motivés. C'est difficile de travailler dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et donc, la motivation est assez faible. C'est vraiment difficile. Donc ça, c'est pour dresser un peu le portrait de ces systèmes de santé dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ce que le gouvernement canadien propose, c'est donc de renforcer les systèmes de santé. Parmi les programmes qui sont financés par le gouvernement canadien, on retrouve principalement la formation des sages-femmes et des autres travailleurs de la santé de première ligne, ce qui est absolument important compte tenu des indicateurs que je vous ai mentionnés précédemment. L'amélioration également de la communication et de la surveillance des maladies pour pouvoir savoir où allouer le budget, quelles sont les priorités d'action. Également l'amélioration du circuit du médicament et de l'approvisionnement des consommables. Et enfin, toutes les campagnes de vaccination, d'éducation à la santé, etc. Je pense que ça, et on est tous d'accord pour dire que ce sont des choses absolument essentielles qui contribuent véritablement à renforcer les systèmes de santé et donc contribuent à la diminution des décès maternels et infantiles dans les pays en développement. En revanche, je pense qu'il y a toute une partie du problème de la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés qui est un peu oublié. En se centrant sur le renforcement des systèmes de santé, les centres de santé, on oublie la problématique plus large de l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un beau centre de santé dans une région où les besoins sont criants, mais les femmes ne viendront pas nécessairement accoucher au centre de santé ou n'amèneront pas nécessairement leurs enfants à accoucher au centre de santé. Alors là, on a une caricature d'un ouvrage qui a été produit dans le cadre de travaux de recherche de Valérie Reed, du centre de recherche du CHUM, qui montre bien, alors je ne sais pas si vous voyez, le médecin dans le centre de santé qui dit « elles n'ont pas l'air pressées, les femmes enceintes », d'un côté de l'image, et de l'autre côté, on a la femme enceinte avec son enfant et un espèce de labyrinthe auquel elle fait face quand elle, si elle veut se rendre au centre de santé pour ses consultations prénatales, pour son accouchement ou pour les consultations pour son enfant. Parmi ces barrières, en fait, à l'accès aux soins du côté du point de vue des femmes et des enfants, on a effectivement l'accessibilité géographique, c'est-à-dire comment se rendre au centre de santé. C'est pas simplement est-ce qu'on a une formation sanitaire qui est proche de chez nous, mais c'est également est-ce qu'on a des moyens de transport qui sont disponibles pour nous rendre au centre de santé. On a également le problème du coût de l'accès aux soins. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, prendre un transport pour se rendre au centre de santé, ben, ça va nous coûter de l'argent. Peut-être que ça va nous coûter également de l'argent de perdre une journée de travail. Peut-être que ça va nous coûter de l'argent de nous rendre au centre de santé et de payer les médicaments qui sont nécessaires pour nous soigner. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte dans les raisonnements des femmes pour se rendre en fait et recourir aux soins dans les centres de santé. Pour montrer un peu, j'espère que je suis dans les temps, vous me direz. Pour montrer un petit peu, en fait, illustrer cette problématique-là, je vais prendre l'exemple de la gratuité des soins. Omar, mon collègue, élaborera sous un autre angle tout à l'heure. Juste pour vous donner un petit contexte, comme je l'ai mentionné tantôt, la barrière financière à l'accès aux soins est vraiment importante. Depuis la fin des années 80, de nombreux pays en développement ont mis en place ce qu'on appelle des paiements directs, c'est-à-dire que quand on se rend dans un centre de santé, on va devoir payer pour les soins qui sont prestés, mais également pour les médicaments et les examens de laboratoire, etc. Le problème que ça a causé, c'est que déjà, on a eu des personnes qui ont renoncé aux soins, donc on a eu une baisse de l'utilisation des services de santé. Mais pour les personnes qui avaient vraiment besoin, les mères et les enfants, qui avaient vraiment besoin de soins et qui devaient payer pour ces soins, les ménages ont fait face à ce qu'on appelle des dépenses catastrophiques. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu à payer des soins les a fait entrer dans un cercle de pauvreté, les a appauvris. C'est ce que l'on a appelé le « medical poverty trap ». Et comme l'a mentionné Anne tout à l'heure, beaucoup de pays africains, mais aussi d'autres pays en développement, se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé, la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc, beaucoup de pays, début des années 90 jusqu'aux années 2000, ont décidé d'abolir certains de ces paiements directs, notamment pour les femmes enceintes, pour les accouchements, pour les enfants de moins de 5 ans, et parfois pour les soins, les services de santé primaire. Ce qu'on a observé, tout un pan de recherche a été mené, toute une recherche a été menée par différentes universités sur ces politiques de gratuité, c'est que les résultats sont très positifs. Effectivement, la barrière financière était vraiment une barrière conséquente pour l'utilisation des services de santé. Donc on a noté vraiment une augmentation de l'utilisation de ces services qui étaient devenus gratuits, notamment dans les populations les plus pauvres. Et on a remarqué aussi également, à travers les recherches qui ont été menées, une baisse des dépenses catastrophiques des ménages. Donc, vraiment un succès. Malheureusement, comme beaucoup de programmes, les politiques de gratuité ont souffert de leur succès, finalement. Ce qui les a rattrapés, c'est qu'on a mis en œuvre ces politiques de gratuité dans des systèmes que j'ai mentionnés tantôt, qui étaient déjà peu performants et assez défaillants. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a rajouté une couche de complexité dans ces systèmes déjà. De nouvelles procédures, de nouveaux documents administratifs, des délais de remboursement difficiles pour les médicaments dont la demande explosait, en fait, parce que les gens sont venus de plus en plus nombreux au centre de santé. Et puis, finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les agents de santé et les centres de santé avaient tellement de difficultés à faire face à la demande de soins et à rendre disponibles les médicaments et les services associés à la demande qu'ils ont dû revenir, en fait, au paiement direct de manière illégale dans certaines formations sanitaires. Mais au-delà de la problématique des systèmes de santé, quand on analyse ces politiques de gratuité et les contextes dans lesquels elles interviennent, on remarque qu'effectivement, il y a des contextes favorables au recours aux soins gratuits. Le fait que les formations sanitaires soient fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il y ait des médicaments, du personnel de santé compétent, etc., etc. La proximité, donc je parlais de la barrière géographique tout à l'heure, donc la proximité des formations sanitaires, la disponibilité chez les ménages de ressources financières pour accéder aux soins, mais également les réseaux sociaux dans la communauté, c'est-à-dire la capacité des ménages ou des individus à mobiliser autour d'eux leur réseau pour trouver un transport, pour trouver les ressources financières, pour avoir de l'information sur les différents programmes, etc. Et dans les formations sanitaires. En revanche, il y a également, on a remarqué plus dans des études plutôt qualitatives et mixtes, où on se préoccupait vraiment du parcours du soin des femmes et des enfants, qu'il y avait des contextes qui étaient relativement défavorables, malgré la gratuité, au recours aux soins gratuits. Et on a remarqué notamment, vous allez regarder, c'est toujours la même chose, la vulnérabilité géographique, la vulnérabilité économique et la vulnérabilité sociale. Et ce que ça a fait, c'est que les populations qui étaient très vulnérables n'avaient pas finalement réussi à accéder à ces soins gratuits. Et donc on remarque une persistance parfois des inégalités d'accès aux soins. Ce que ça montre aussi, quand je parle de au-delà du système de santé, c'est que quand on parle de disponibilité des moyens de transport, quand on parle de disponibilité de ressources financières et de réseau social, on est à l'extérieur de ce qu'on peut faire pour la santé des mères et des enfants en termes de renforcement des systèmes de santé. Ces ressorts-là appellent à des politiques plus intersectorielles qui agissent sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire que ça passe par le développement économique de certaines régions, ça passe par le développement des réseaux urbains, ça passe par l'implication sociale et la mobilisation communautaire. Donc ça, ce sont des choses qui sont peut-être parfois financées par le gouvernement canadien, mais qui ne font pas partie d'une stratégie cohérente et explicite. Et je pense que c'est là où le bât blesse. En conclusion, je dirais qu'il faut reconnaître et tenir compte de la complexité en fait, de la situation et des parcours de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. C'est ce que j'ai essayé de montrer ce soir. De reconnaître en fait, l'importance des déterminants sociaux de la santé et d'agir sur les inégalités sociales de santé, donc tout ce qui est à l'extérieur des systèmes de santé, mais qui contribue au fait que les femmes enceintes, par exemple, ne fréquentent pas les services de santé, le fait que les enfants tombent malades, etc., etc. Et aussi de reconnaître en fait les déterminants plus structurels et le rôle de la mondialisation dans les processus qui affectent la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants. On a parlé de l'accaparement des terres, tout ce qui est les phénomènes d'instabilité politique, la guerre dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la pauvreté créée par des échanges économiques défavorables. Ça, ce sont des choses qui n'appartiennent pas directement à la problématique de la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, mais qui est absolument déterminant pour, si on veut, pérenniser ces interventions et si on veut vraiment améliorer la santé de ces populations-là. Et pour continuer le débat, j'avais comme une ou deux questions qui rejoignent un peu les préoccupations qu'Anne mentionnait tout à l'heure. La première, c'est d'abord une question autour de la politique canadienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Est-ce qu'elle se situe un peu dans ce qu'on appelle la lignée de biomédicalisation de la santé mondiale, c'est-à-dire de parler beaucoup du renforcement des systèmes de santé, de la vaccination, des problèmes, des programmes médicaux, des technologies de l'information et de la communication? Donc est-ce que ça ne nous fait pas oublier un peu les déterminants sociaux de la santé? Et agir sur les déterminants sociaux de la santé, est-ce que c'est compatible avec une vision orientée sur les résultats qui est promue par le gouvernement canadien, comme l'a mentionné Anne tout à l'heure? J'ai mis une longue citation, mais je ne la lirai pas, allez-y si vous voulez. Mais cette citation montre bien qu'on est vraiment dans une perspective de court terme, de produire des résultats à court terme, donc construire des hôpitaux, construire des écoles, creuser des puits, c'est quelque chose de très visible, c'est quelque chose de très court terme, on a des beaux résultats, mais on oublie derrière, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, mais on oublie derrière les objectifs plus transformationnels de la société qui finalement pose vraiment problème. Donc voilà la réflexion que je voulais amener avec vous ce soir. Merci.
Merci beaucoup, Madame Delorme. Je pense que poser les questions, c'est y répondre d'une certaine façon. Alors, ces questions sont intéressantes et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à travers vos interventions.